Découverte, initiative écologique, Parlons Nature, une émission de résonance sonore.
À Vaour, petit village au nord du Tarn, artisans et habitantes ont créé un collectif dénommé les Ateliers d'Elbosc, avec la volonté d'impulser de nouvelles formes de gestion du bois et d'interaction avec la forêt. Les rencontres charpentesques, fut à Escamp, qui se sont tenues au village du 9 au 12 juillet 2025, ont rassemblé une petite centaine de passionnés pour des moments de partage et de construction. On part donc au cœur de cet événement, à la découverte de nouvelles manières de se saisir des enjeux du bois et d'une filière locale qui peu à peu se bâtit.
Donc là, en fait, tu vois, ce qu'on va faire, voilà, il y a une partie de l'ossature qui est construite ici, qui va être montée dans les locaux des ateliers d'Elbosc. Mais dans l'immédiat, on va les laisser ici, en fait, enfin une partie, une toute petite partie, juste une boîte qu'on va laisser en fait en démonstration pendant l'été de Vaour. C'est le grand festival du mois d'août qui a lieu chaque année, là, qui ramène quand même beaucoup de monde au village et voilà, qui nous permettra de nous faire connaître aussi. Donc on va laisser un peu ça, une boîte de démonstration, on va dire. Voilà, donc avec ces bois qui viennent d'être équarris et donc assemblés hier. Et voilà, et donc on va en faire un cube qu'on va sécuriser pour que ça puisse être quand même accessible au public sans danger. Et on mettra quelques panneaux explicatifs un peu de ce qu'on veut faire.
Moi, je m'appelle David Eisele. Je suis allemand à la base. Et bon, ça fait un bon bout de temps que je suis en France. On va Vaour depuis 8 ans. Alors, pour commencer au début, deux copains charpentiers, ça fait maintenant 5 ans qu'ils m'ont amené en Bretagne sur une rencontre charpentesque. C'est un peu, voilà, à cause d'eux qu'on fait ça ici. Parce que pendant 3 ans, on est allé chez eux et c'était très très riche comme expérience, échange entre personnes qui travaillent dans le métier. Et ça fait 2 ans qu'ils ont arrêté. C'était le dernier là-haut. Et c'était toujours dans les discussions la question de refaire ça quelque part ailleurs. Donc j'ai commencé à me motiver l'an dernier. Et cette année, il y avait un peu plus de soutien. Et on a réussi à monter ça. J'ai lancé, j'étais au début quelque part du lancement de ce projet. Et puis très vite, s'est constitué une bonne équipe de charpentiers, menuisiers et membres des ateliers d'Elbosc.
Alors, je m'appelle Eric, je suis architecte de formation, autoconstructeur, et voilà, je fais partie donc de l'équipe des Ateliers d'Elbosc, qui est un projet de création d'un lieu donc collectif autour du bois. C'est une association loi 1901, composée d'artisans et aussi d'autoconstructeurs, donc pas forcément que des professionnels du bois, mais qui sont intéressés pour travailler le bois pour eux-mêmes ou pour leur activité professionnelle. Partant du constat d'une part que les derniers scieurs locaux partent à la retraite et qu'en même temps on avait un gros potentiel avec la forêt de la Grésigne et les différents bois qui sont aux alentours, qu'on avait quand même un gros potentiel de production de bois localement. Et donc on est parti sur un projet minimal de créer un lieu qui soit un espèce d'hôtel d'activité, c'est-à-dire où les différents artisans, professionnels ou autoconstructeurs, amateurs, pourraient disposer d'espace et d'outils et aussi d'auto-formation, on va dire, pour pouvoir travailler le bois, partir déjà de l'amont, c'est-à-dire pouvoir déjà bénéficier de grumes avec une gestion forestière qui soit cohérente, qui soit voilà, ce qu'on appelle la gestion douce forestière, hein, c'est-à-dire une sélection des bois plutôt que des coupes claires, puis couper bien sûr dans de bonnes conditions. Et à partir de là, donc, essayer de valoriser la totalité du bois, c'est-à-dire une partie en bois d'œuvre, utiliser l'ensemble de la grume et du bois de chauffage pour les parties qui n'intéressent pas le bois d'œuvre.
Et tout ça, finalement, nous a amené à acheter ce petit hangar qui est dans une petite zone artisanale du village.
Tout le monde a mis un peu d'argent ?
Non, c'est un mélange, on va dire. Certaines personnes qui ont eu les possibilités de mettre de l'argent, ils l'ont fait, évidemment. Mais principalement, on a marché avec des dons. C'est-à-dire, on a fait le tour de la commune, des alentours, sur les marchés, on a parlé à tout le monde. Et on a quand même réussi à collecter 35 000 euros de dons avec lesquels on a pu déjà acquérir le lieu. Et finalement, quand on a commencé à aller aussi sur Internet, rechercher, et on a eu une grande chance dernièrement, il y a 40 000 euros qui vont arriver pour continuer les travaux.
De la part de qui ?
C'est un fonds de dotation toulousain où on ne peut pas dire plus.
Là, c'est... Ouais, on peut dire que c'est un peu le fignolage de l'assemblage. On a taillé, au début, tu traces tes assemblages et tu les tailles le long des traits que tu as faits. Et après, là, tu viens vérifier vraiment en mettant une pièce dans l'autre où est-ce qu'il y a des ajustements à faire. Parce que comme le bois, il est équarri, on l'a taillé à la hache, en fait. On est parti de la grume et on a fait les faces à la hache. Du coup, c'est pas un plan tout bien rectiligne, tout lisse. Et du coup, il y a souvent quelques petites retouches à faire pour que ça épouse vraiment bien les formes.
Et là, cette grande pièce, elle va servir à quoi ?
Elle accueille les poteaux. T'as des poteaux qui viennent s'enfoncer dans la lisse haute. Et je sais pas s'il y aura... Ouais, je crois qu'à terme, il y aura un étage par-dessus qui viendra se poser là-dessus. Moi, je suis une personne qui s'est formée et continue de se former à la charpente en reconversion. Charpente traditionnelle, du coup.
Et pourquoi vous êtes venue ici ?
Pour l'ambiance, parce que c'est des chantiers qu'on n'a pas forcément beaucoup l'occasion de faire au quotidien, pour en rencontrer d'autres gens comme nous, découvrir des outils, découvrir des pratiques différentes, échanger quoi. Et accessoirement, c'est pas très loin de chez moi, en ce qui me concerne, du coup c'était pratique.
Pourquoi je suis venue ici ? Pour voir Marion.
Pour voir votre copine.
Pour rencontrer Marion. Voilà. Et bah après, pour voir un peu la construction qu'il faut faire.
Et vous n'êtes pas du métier ?
Si, mais en charpente métallique.
C'est assez différent le travail de la charpente bois ?
Ah, ça n'a aucun rapport, oui. Parce que c'est beaucoup plus. Le bois, c'est beaucoup plus. Comment on dit le bois ? C'est plus vivant, c'est plus filamenteux, c'est plus moins régulier.
Il y a des fibres, c'est des fibres naturelles du bois. Dans le métal, ouais, il n'y a pas ça.
Ces rencontres de charpentiers qui travaillent à la hache, principalement, enfin en tout cas qui travaillent qu'avec des outils manuels, et du coup ça forme un espèce de réseau national de gens qui se connaissent et qui finalement se sont répartis un peu partout sur le territoire, mais qui se retrouvent justement à l'occasion de ces rencontres. Et c'est un peu ce qui s'est passé là, hein, puisqu'on a des gens là qui viennent donc du coup de Bretagne, hein, pour les anciens organisateurs, mais aussi un peu de partout dans les environs, mais également après des Italiens, des Espagnols, donc voilà, des Allemands, des Polonais, voilà, donc ça prend une échelle un peu européenne, ce qui est assez sympathique.
Oui, oui. Bah ça, je sais pas si on vous l'avait dit, mais en tout cas, le tirage au sort, c'était, ils ont voulu la parité dans l'organisation et aussi autant de personnes débutantes, expérimentées et puis bah niveau moyen. Moi, je suis novice, alors pour moi, j'ai l'impression que ça se passe bien. En tout cas, c'est super chouette.
Vous êtes formée ?
Ouais, mais pas en charpente. J'ai fait une mini module de charpente, mais dans une formation beaucoup plus large, plus généraliste. Et nous, on avait appris la maçonnerie, la couverture, charpente, taille de pierre, un peu tout.
Vous avez envie d'en faire votre métier ?
Je sais pas, mais en tout cas de progresser en charpente, ouais, carrément. Et toi, ouais, traditionnel.
C'est génial de se faire porter par une organisation.
c'est assez informel, ouais, le matin, la première heure, chacun, chacune va un peu là où il ou elle a envie d'aller. Et après, à 10h, il y a un point, et chaque équipe dit s'il y a des besoins, combien de personnes, tout ça. Et en fait, après, ça se fait naturellement, ouais, les personnes vont un peu où elles veulent. Et s'il y a des besoins, il y a des demandes, et voilà. Pour porter une référente en menuiserie, un référent ici pour les pans de bois, un référent pour la forge, voilà. Et après, plusieurs personnes aussi, un peu en soutien dans chaque équipe, je pense. Parce qu'on est beaucoup à être novices aussi.
C'est la féminisation, quoi. Tu vois, parce qu'on voit bien que c'est un métier émergent pour les femmes, donc c'est rempli de renards, là, ouais. C'est bien. On est quasiment à la parité, là. Je crois qu'on n'est pas loin de la quarantaine de femmes pour les 80 inscrits, quoi. On doit être très très loin, quoi. 35, peut-être, comme ça.
Ça s'appelle les renards, c'est un petit clin d'œil, parce que à l'origine, renard, c'est un terme plutôt péjoratif qui est utilisé par les compagnons pour désigner les personnes qui ne font pas partie du compagnonnage ou qui se forment chez eux sans poursuivre la voie du compagnonnage et qui, du coup, partent avec le savoir des compagnons sans leur transmettre au sein des compagnons. Donc moi je m'appelle Fanny, je suis charpentière et je suis venue participer aux rencontres de charpente de barreaux. Moi je travaille la charpente traditionnelle et un peu aussi d'isolation. Je fais des maisons, beaucoup. Donc tout ce qui est aussi habillage intérieur, parquet. Les renards, c'est une formation de charpente, c'est une formation initiale qui forme un groupe de 8 personnes pendant un an et demi à la charpente traditionnelle, mais pas que. On a aussi une partie de la formation qui est consacrée à la production de bois d'œuvre, donc sylviculture, bûcheronnage. Et on emmène les personnes qui le souhaitent jusqu'au diplôme du CAP. Il y a une semaine de formation par mois à peu près, mais c'est réparti sur l'année. Et ensuite, il y a un chantier école qui est organisé une fois par session de formation. Et donc là, ça va regrouper plutôt entre 4 et 6 semaines qui vont se faire les unes à la suite ou alors avec une coupure au milieu, mais ça va être hyper condensé. Viens, mon cœur. Pendant longtemps, on était une formation à majorité féminine. Sur un groupe de 8 personnes, on accueillait 6 femmes et 2 hommes. Et maintenant, depuis 2 ans, on est une formation en mixité choisie. Donc il n'y a plus d'hommes cisgenres qui sont accueillis dans les personnes formées. Par contre, il y en a toujours parmi les formateurs qui, historiquement, étaient là depuis le début de l'école. L'envie, c'était de créer un espace de formation qui soit plus confortable pour les personnes qui sont minoritaires dans le bâtiment, dans les voies classiques. Donc c'est pour ça qu'on a proposé ce format. Je pense que ça évite pas mal de gêne de la part de certaines personnes. Ça évite les rapports de personnes qui prennent trop de place ou de pas forcément oser, en fait. Et dans le cadre de la formation, alors tout le monde n'a pas du tout le même rapport à l'apprentissage. Et déjà, en soi, c'est un petit chemin à parcourir de créer un espace d'apprentissage confortable pour n'importe qui. Mais là, ça évite des moments où, quand des personnes hésitent, il y en aurait forcément d'autres qui prendraient les devants par habitude. Donc ça laisse de la place, je pense. Et par ailleurs, c'est quelque chose qu'on a envie de discuter. L'idée, c'est aussi de profiter de cette expérience parce que c'est 8 personnes qui vont se suivre en fait pendant un an et demi. Et donc, il y a aussi le soin du groupe, le soin de la place de chacun, chacune dans le groupe, de comment faire les choses ensemble. Ça fait partie des choses dont on peut discuter et auxquelles on fait attention.
Tu te poses deux secondes ? Pause deux secondes.
Okay. On retaille les abous d'une bille de bois qui va être ensuite équarrie, c'est-à-dire qui va être transformée à la hache pour en faire un parallélépipède. Là, l'arbre a été abattu, donc on est au pied de l'arbre et il est indispensable pour pouvoir tracer l'extrémité de la section de la pièce de charpente qu'on va faire, d'avoir une belle surface pour qu'on puisse appliquer le crayon et le niveau dessus et pouvoir ensuite se livrer à l'opération de traçage de la bille.
Mais c'est votre métier le reste du temps, en dehors de ça?
Mon métier, pour l'instant, c'est retraité, mais je suis auto-entrepreneur et je fais effectivement de l'enseignement d'écarissage, proprement dit, et puis de l'utilisation des haches charpentières. Voilà, et puis il m'arrive de travailler aussi en charpente, mais des charpentes traditionnelles et façonnées, dont les bois sont façonnés à la main, dont le bois d'œuvre est façonné à la main.
Quel est l'intérêt pour vous de vous donner autant de mal à le faire à la main et pas avec des machines?
La vérité, c'est que je prends du plaisir physique à travailler à la hache, comme j'imagine ce que ressentent des personnes quand elles commencent à bien manier un outil. Il y a un plaisir physique à le manier. Et puis j'aime ce côté où c'est directement votre corps avec un simple objet intermédiaire qui est une pièce de métal emmanchée sur un bout de bois qui permettent de travailler autant quelque chose qui a une forme de constitution organique et dont on veut obtenir une forme de constitution mécanique. Voilà mon intérêt, donc c'est de pouvoir produire moi-même ou à deux, parce qu'il y a l'intérêt du travail en équipe aussi, de bien s'entendre et des fois de ne même pas avoir à parler tellement la communication se fait d'une autre manière. Donc c'est cet intérêt du partage dans la tâche, du partage de la souffrance. On le sait que certainement on envisage le développement de la solidarité par l'affrontement de la peine en commun. Et ça, ce sont des idées qui m'intéressent, c'est-à-dire ce sont des conceptions de l'homme qui m'intéressent. C'est de la philosophie, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est en travaillant la matière qu'on éprouve les déterminismes naturels et c'est en les apprenant par l'expérience, ces déterminismes, qu'on crée un petit peu les conditions de sa liberté. Voilà.
On peut utiliser en fait simplement des haches. Vous voyez, on est peut-être une vingtaine à travailler. Si on était avec des tronçonneuses, des scieries mobiles, qui peuvent être aussi tout à fait utilisables et entendables dans l'utilisation moderne, mais là, on peut tous s'écouter, s'entendre. Le bruit de la hache un peu sourd qui est aussi agréable. Donc, c'est une autre manière de travailler pour moi, de travailler à la main que d'utiliser les machines, quoi. Les deux sont pas forcément antinomiques, mais il faut savoir utiliser l'un et l'autre quand c'est pertinent aussi, quoi. Sur des bois courbes, certaines fois, bon, des fois, on les scie en deux faces, mais quand on veut obtenir la courbe, il n'y a qu'avec la hache qu'on va pouvoir obtenir ces résultats.
Donc, mais ça peut être rentable pour en faire une activité professionnelle?
C'est rentable lorsque les clients aussi, je pense, cherchent à la fois un esthétique, une caractérisation un peu spécifique pour de la charpente traditionnelle notamment. Ouais, donc il y a un grain qu'on ne retrouve pas, on va dire, dans certains bois modernes, et aussi une efficacité mécanique en fait, parce que justement, vu qu'il y a un travail avec la fibre et pas simplement tailler... on va dire un peu tout droit sans aller chercher les complexités du bois, ben on va peut-être avoir plus de solidité dans certains bois en fait qu'on va travailler manuellement, qui vont peut-être prendre un peu plus de temps, et encore ça dépend, on va dire, des personnes qui le travaillent. Des fois on a une efficacité qui se crée avec l'entraînement, mais ça peut apporter, oui, même une rentabilité par la suite, parce qu'un bois qui va durer 50 années ou 100 années de plus, en fait, ça ne sera pas un bois qu'on va devoir changer dans sa maison, etc. Donc c'est du long terme, il ne faut pas voir ça au coût et à l'achat forcément, mais réfléchir en plus long terme, quoi.
On se retrouve un peu hein, dans les cas de figure de difficulté de la construction écologique. C'est-à-dire que, évidemment, à partir du moment où on met de la main-d'œuvre à la place de matériaux transformés industriellement, on a du mal à rester dans des prix qui sont fixés pour la production industrielle. Voilà, donc il faut trouver des feintes avec une part d'autoconstruction, une part d'autoproduction, c'est-à-dire d'impliquer justement les gens dans les filières de production en amont, peut-être de production du bois, justement, de leur bois, etc., de façon à rester dans une réalité économique avec des coûts qui soient accessibles à des personnes qui n'ont pas forcément, en effet, les possibilités de construire avec des prestations de luxe, quoi.
Et là, vous repartez en ayant appris quoi ?
On est en progressé en taille, en piquage. Les piqûres, c'est pour rassembler, savoir où va tomber l'assemblage des morceaux de bois entre eux. Et puis j'ai rencontré plein de personnes super chouettes. Enfin, l'ambiance est trop cool.
C'est pas la cloche du repas, ça ?
Si, je crois.
C'était Les Rencontres Charpentesques à Vahour, réalisées par Claire Cachecouche-Soucy. Un grand merci à Eric, aux membres des ateliers d'Elbosc et à toutes les personnes qui ont accepté de livrer leur témoignage.
C'était Parlons Nature, une émission de résonance sonore soutenue par la DRAC Occitanie. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.